Salut à tous, c'est Jonathan et bienvenue pour ce nouvel et premier épisode de la saison 2 de No Jetlag. C'est un plaisir de vous retrouver et surtout de commencer avec une interview passionnante de Simone Hérault. Simone Hérault, c'est la voix de la SNCF depuis des dizaines et des dizaines d'années. Elle est également chevalière des arts et des lettres, mais elle ne le dira pas pendant ce podcast, donc je me permets de vous l'indiquer dans l'intro. Il faut savoir que c'était une discussion passionnante sur son métier, sur ses inspirations et même sur l'intelligence artificielle. J'espère que cet épisode vous plaira. De mon côté, je vous souhaite une très bonne écoute. Simone, bonjour.
Bonjour Jonathan.
Je suis ravi d'être à tes côtés pour ce nouvel épisode de No Jetlag. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai pris le train des centaines de fois et ta voix m'est extrêmement familière, comme d'ailleurs pour de nombreux voyageurs. Et d'ailleurs, c'était ce que je voulais te dire en intro. Quand j'ai regardé un petit peu sur Internet ce que les gens disent de toi, tout le monde me dit voix rassurante, apaisante, douce, déstressante. Qu'est-ce que ça fait d'être la voix de la SNCF ?
C'est un grand bonheur et une grande fierté d'être la voix de la SNCF et surtout depuis aussi longtemps. Parce que... ça date, peut-être que c'est une des questions futures.
Ben, c'est la première. Allons-y, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours ?
Alors,
comment on devient la voix de la SNCF ?
Alors, je vais tout expliquer. Après mon bac, j'ai eu une chance extraordinaire. Après mon bac, que j'ai eu en 1968, donc un bac dit au rabais, parce que bon, il n'était pas très valorisant celui-là, j'ai donc fait des études de secrétariat de direction pour faire plaisir à mon papa qui était chef d'entreprise, et je ne me sentais pas prête à devenir étudiante. J'étais complètement paralysée par ce monde des étudiants qui venait de faire grand bruit, justement, en 1968. J'ai eu peur. J'étais dans une famille assez bourgeoise, assez stricte et tout. Donc, j'ai eu peur. Donc, j'ai fait des études de secrétariat. Je me suis dit, au moins, si je suis secrétaire, papa sera content. Donc, je commence à faire des études de secrétariat. Et la deuxième année... le directeur de cette école de secrétariat, qui trouvait que je travaillais pas trop mal, et m'offre un des plus beaux stages qui soit pour terminer mon année. Je te le donne en mille à la maison de la radio, qui à l'époque s'appelait la maison de l'ORTF. Voilà, oh là là, ça date. Et donc, me voilà en stage à la maison de l'ORTF dans un service qui s'appelait Interservice Jeunes, qui dépendait de France Inter de l'époque. Et j'ai commencé à faire des petits reportages. En fait, j'ai fait 3 jours de secrétariat. Voilà, après, ça a été terminé. Et j'ai commencé à faire des petits reportages par-ci, par-là, pour ce service qui était consacré à la jeunesse, qui donnait des renseignements pour les étudiants, pour les jeunes, aussi bien pour le logement que pour le travail, que pour les loisirs. Donc, c'était très sympa. Et puis, j'ai continué. Alors, j'étais évidemment bénévole, si on peut dire, comme stagiaire. Et ça a duré. Et j'ai voulu recommencer l'année d'après. Et toujours bénévole. Et un jour, on m'a demandé si je voulais aller travailler au journal de France Culture. Waouh ! Mais pas en tant que journaliste, hein. Pas du tout. Non, non, j'étais chargée de découper les dépêches. Alors, il faut vous dire, chers tous, qu'à l'époque, il y avait des téléscripteurs qui donnaient les dépêches, c'est-à-dire il y avait des dépêches qui sortaient papier. Il y avait l'AFP, France Presse, l'ACP, etc., etc. Aujourd'hui, c'est sur ordinateur. Avant, c'était sur des téléscripteurs qui faisaient un boucan d'enfer. C'était dans une salle séparée. Et mon travail à moi, c'était d'aller chercher ces dépêches, de les découper et après de les remettre les unes avec les autres pour que les journalistes, quand ils arrivaient pour préparer leur journal, aient toutes les dépêches bien en ordre sur chaque sujet. Alors à l'époque, il y avait le Vietnam. Ça, c'était une grosse, grosse partie. Et puis après, il y a les faits divers, tout ça, tout ça. Et donc, j'ai fait ça pendant 6 mois. C'était très dur parce qu'il fallait quelquefois arriver à 3h du matin. Hein, c'était dans mon... Et moi, j'ai du mal à me lever tôt, hein, toujours d'ailleurs. Donc, j'ai fait ça un petit peu. Et il s'est trouvé que FIP, France Inter Paris, FIP, avait commencé le 5 janvier 1971. C'était la première, le premier jour de cette chaîne fabuleuse. Et un an après, ils ont dû augmenter leurs horaires de diffusion de cette chaîne de radio parce qu'elle avait eu un succès énorme, énorme, au bout d'un an. J'ai donc passé une audition pour être recrutée et j'ai eu la chance d'être recrutée. J'habitais toujours chez papa et maman et quand j'ai reçu un télégramme, un petit bleu pour me dire « candidature acceptée », je l'ai toujours d'ailleurs, j'ai sauté de joie dans la maison de mes parents, mais j'étais mais folle de joie, mais vraiment folle de joie. Et je suis restée à FIP quasiment 30 ans. Belle radio.
Et alors juste après, parce que donc là on est au moment de la radio,
alors,
la SNCF
c'est
dans
pas,
tout ça.
Alors c'est pas 30 ans de SNCF plus 40 ans de... Non, c'est pas 30 ans de FIP plus 40 ans de SNCF, c'est 30 ans de FIP et... À l'intérieur de FIP, en 1981,
ouais.
La SNCF a eu besoin de renouveler les voix, hein, qui étaient déjà des voix de radio. Et donc, FIP a été appelé et on est arrivé à plusieurs de ma radio, plusieurs animatrices pour passer une audition. Et là, on a été deux à être prises, Sophie et moi, deux FIPettes, comme on disait. Et au bout de quelques années, comme il y a eu... l'arrivée des ordinateurs et qu'il a fallu être raccord. Au début, on enregistrait tout globalement. Et puis, avec l'arrivée des ordinateurs et des fichiers informatiques, numériques, je ne sais pas comment tu dis,
des
fichiers,
ouais.
On n'a plus enregistré que des mots ou des groupes de mots. Et là, il fallait plus qu'une seule voix pour que tout soit raccord. Et j'ai là encore eu la chance d'être choisie. Donc tu vois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Et mon Dieu, mais c'est une belle fierté qui dure encore. Je n'y crois même pas.
Et donc concrètement, comment ça marche? Parce que tu disais il y a un instant qu'avant on enregistrait des phrases complètes, maintenant des mots et des groupes de mots. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien, en tout cas des phrases que tu enregistres, des groupes de mots que tu enregistres? Comment ça marche si on doit aller à Toulon en provenance de Paris?
Aujourd'hui, on essaye de faire des phrases relativement courtes pour ne pas qu'il y ait trop de pollution sonore dans les gares, aussi bien pour les gens que pour les agents. Mais si tu veux la phrase type avant, hein, on donnait le TGV numéro 10944 à destination de Toulon, partira voie 2.
Ok.
Voilà. Bon. Et ça, c'est composé aujourd'hui de... Le TGV, c'est un groupe de mots. Numéro 10344, c'est 10344. C'est-à-dire que j'ai enregistré tout.
Tous les. Ok.
Voilà, avec les dizaines, les unités,
les centaines,
les centaines, les milliers. Voilà. À destination, ça c'est encore un mot. De Toulon, le 2, il est placé avec Toulon.
Ok.
Voilà. Partira, voix une. Voilà. Tu vois tout ça et ça doit être dit avec des intonations suffisamment précises pour que, une fois recollé, ça donne une phrase agréable à l'écoute.
Et du coup, maintenant, tu as dû en enregistrer des centaines, des milliers, même peut-être, voire même dizaines de milliers s'il y a tous les chiffres, etc. Quand tu retournes enregistrer dans les studios pour la SNCF, qu'est-ce que tu enregistres désormais?
Alors, il y a toujours des nouvelles destinations. Il y a, par exemple, les destinations qui sont desservies par des cars,
oui.
Des cars SNCF.
Effectivement.
Voilà. Donc, ou par des tramways. Il y a de plus en plus de tramways aussi qui appartiennent à la SNCF. Avec la mobilité, on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse aller un petit peu partout, même si c'est évidemment pas encore parfait, on pourra en reparler, loin de là, mais cette mobilité, elle est très importante. Donc il y a tout ça à enregistrer, ce sont des choses nouvelles. Et depuis quelques années, il y a aussi beaucoup plus d'annonces à l'intérieur des trains.
Okay.
Que ce soit les RER, que ce soit les TER, les intercités ou les TGV. Donc il m'arrive aussi d'avoir des annonces qui sont diffusées dans tous ces systèmes de circulation. Ce qu'on appelle ça dans le jargon une circulation. Une circulation, c'est un train, un RER, un intercité. Voilà.
Et alors, une question que je me posais, à chaque fois que... Alors je vais dire tu, mais que dans la gare on entend, mais c'est ta voix, donc c'est toi. À chaque fois que tu indiques le nom d'une ville, d'une destination, il y a toujours une intonation montante, et on répète tout de suite avec une intonation, de ce que j'ai compris, descendante. Ou est-ce que c'est pas le cas? Voilà, dis-moi tout ça, mais en tout cas je sais qu'à certaines destinations, il y a une répétition,
oui,
deux fois.
Oui, alors à l'intérieur des trains.
D'accord.
À l'intérieur des trains, donc... C'est plus dans les trains de la banlieue d'Île-de-France.
Et, d'accord.
Ce train desservira... Non, oui. Il desservira HR Grand Cormier, par exemple. Et quand on va arriver en gare, HR Grand Cormier. Cormier ou Cormier,
d'accord,
je sais pas,
voilà. Ok.
Donc, c'est Versailles-Chantier. Versailles-Chantier. Pour, bon, mais ça, c'est aussi dans le métro, c'est pareil à Paris.
Oui.
J'ai oublié de te... Je reviens à la question précédente,
ouais.
Qui est dans les annonces que l'on fait pas mal depuis un certain temps. Ce sont des annonces pour pour ce qu'on appelle les PMR, dans le jargon, ce sont les personnes à mobilité réduite.
Oui.
Et notamment pour les non-voyants, nous enregistrons ce que l'on appelle des balises.
Ok.
Et avec un boîtier qu'ils ont, ils passent à certains endroits de la gare et ils les entendent.
Ça déclenche.
Voilà, les annonces que je leur donne, vers voie 1, vers porte accueil, vers guichet, etc. Voilà.
Et alors, est-ce que tu as eu d'autres propositions? Parce que de ce que j'ai vu quand j'ai fait des recherches sur ton parcours, tu es donc comédienne. Tu es donc, tu travailles à la CNCF en tant... Alors, quel est le statut? Comment on dit?
Alors, je suis comédienne, je suis engagée au cachet, comédien.
Voilà, donc ça sous-entendrait que tu pourrais travailler aussi ailleurs, en tout cas pour d'autres compagnies, pour du doublage. Est-ce que, alors on va essayer d'élargir au fur et à mesure, mais est-ce que tu as déjà été contactée pour faire la voix d'autres moyens de locomotion en dehors de la France, donc en dehors de la SNCF? C'est ma première question, et après j'arriverai sur la seconde un peu plus large.
Alors, dans le cadre de la SNCF, c'est très important, j'ai fait il y a très 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 longtemps des annonces qui ont été enregistrées avec le système qui débutait à la SNCF avec ce système de fichiers. J'ai fait des enregistrements pour l'aéroport du Caire,
okay.
Et l'aéroport de Bruxelles. Je ne pense honnêtement pas que ce soit toujours en service, parce que ça fait quand même très très longtemps. Mais c'était rigolo de penser que j'ai fait des annonces pour deux aéroports avec le savoir-faire de la SNCF.
Ok.
Bon, maintenant, dans mon contrat, je n'ai, et c'est tout à fait normal, pas le droit de faire de prêter ma voix pour des moyens de locomotion concurrents de la SNCF. Donc là, aujourd'hui, je ne peux pas faire d'aéroport, ce qui est tout à fait normal. Ça ne m'est jamais arrivé qu'on me le propose, mais même des lignes privées de car, je ne le ferai pas, et des voitures non plus.
Ok. Et si on élargit donc un peu plus, comme tu es comédienne, il y a tout ce qu'il y a à côté, du théâtre, du doublage, en plus avec ta voix. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu en fais?
Alors, j'ai fait un petit peu de doublage, mais vraiment très anecdotiquement, parce que c'est un métier tellement difficile et qui s'apprend sur le tas. J'ai pas été extraordinairement bonne du tout. Et donc j'ai dit, bon, on va arrêter les frais là. On m'avait engagée parce que j'étais la voix de la SNCF et qu'on voulait mon timbre de voix pour une maman éléphant dans un dessin animé.
Okay.
Voilà, donc j'avais trouvé ça absolument charmant. Et c'est d'ailleurs rigolo parce que mon fils aîné, qui travaille dans ce milieu du film d'animation, un jour il y a une dame qui vient le voir et qui lui dit « Tu connaîtrais pas une comédienne parce que je voudrais bien une voix qui ressemble à la voix de la SNCF. »
Ah ben.
Et mon fils lui dit « Bah écoute, tu tombes bien, c'est ma mère. »
c'est fou, le hasard.
Voilà. Mais bon, j'ai pas, non, c'est pas mon truc. Il y a des gens qui le font avec beaucoup de talent et voilà. Moi, je n'ai pas ce talent-là, en tout cas. Qu'est-ce que tu me demandais ? C'est ce que j'avais fait d'autre. Oui. J'ai fait, mais il y a très très longtemps aussi, beaucoup de documentaires, de voix pour des documentaires, pour des choses comme ça. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. J'ai enregistré aussi quelques livres audio. Et j'ai décidé un jour de quitter FIP parce que 30 ans, c'est une belle page et que j'avais envie de faire autre chose tout en aimant profondément cette radio. C'est vraiment ma première famille professionnelle et on a tous commencé, on avait tous 20 ans. J'avais 21 ans quoi. Et c'était génial. On a vraiment vécu des aventures formidables pour cette radio. Après avoir décidé de quitter FIP, parce que je m'étais dit, je ne veux pas avoir 50 ans à FIP. Voilà. Et donc, j'ai quitté un jour avant mes 50 ans.
Okay.
FIP, parce que c'est une radio merveilleuse et que je commençais à fatiguer, à me lever très tôt, parce que le matinal, c'était 7 heures. Tu me diras, il y a des gens qui commencent beaucoup plus tôt. Mais moi, j'aimais pas trop ça. Puis il y avait les enfants, tout ça. Bon. Et donc, un des rêves de petite fille, c'était d'être comédienne. Mais je n'ai pas fait d'études de comédienne. Je me dis comédienne parce que je pense que la voix, c'est aussi une des facettes du métier de comédien, mais je n'ai pas fait de cours de théâtre, je n'ai pas fait le cours Florent, ni n'importe quel autre cours de théâtre, non. C'est la voix. Puis, quand j'ai enregistré des livres audio, je savais que je pouvais faire ça. Donc, j'ai eu très envie de monter sur scène, parce que ça me... Voilà, j'en avais envie, quoi. Et FIP, la radio, c'est un métier public, mais c'est pas pareil que d'être sur scène. Donc j'en avais très très envie. Et j'ai eu envie de proposer aux gens de la lecture publique. Ça commençait un petit peu, il y avait des gens qui commençaient à lire des textes en public. Et je me suis dit, waouh, ça c'est bien, ça me plaît, il n'y a pas besoin d'apprendre un texte. Je ne pense pas que j'en aurais été capable. Et j'ai eu envie de faire ça. Sauf que c'est compliqué quand on n'a pas de structure. Et j'ai un ami qui s'appelle Jacques Pagnès, qui était au centre audiovisuel de la SNCF, qui était responsable du travail que je faisais moi et les gens qui m'enregistraient. Lui était mis à la retraite, il aurait bien continué parce que c'est un hyperactif, mais il a été à la retraite. Et il m'a dit, si tu veux, puisque maintenant j'ai du temps libre, je t'aide et on forme, on met au point, on met sur pied une structure pour que tu puisses faire de la lecture. On a donc créé Lire Autrement. Alors, Lire Autrement, c'est une compagnie professionnelle, mais c'est géré comme une association, parce que c'est okay. Quand même ce qu'il y a de plus facile. Et j'ai commencé à faire des lectures. Et puis, petit à petit, on a commencé à mettre un musicien ou une musicienne avec mes textes, et puis un autre comédien, et puis une autre comédienne. Et petit à petit, on a créé des choses absolument extraordinaires jusqu'à partir à l'étranger, faire des grandes salles comme la salle Gaveau, où on a rayonné un petit peu partout en essayant de défendre mes coups de cœur parce que je choisissais en gros les textes. Et avec Jacques, avec qui je travaillais, lui, il était... il racontait des grandes histoires, par exemple la vie de Zola, ou avec beaucoup beaucoup de détails et des passages et des belles pages de l'auteur concerné. On a fait la même chose pour des musiciens, pour Chopin et Georges Sand, pour Alfred de Musset et Georges Sand, pour Pierre Loti, pour enfin énormément de pour Colette. On a beaucoup, beaucoup travaillé, ou en lecture simple que j'organisais, ou ces spectacles un petit peu plus compliqués que Jacques peaufinait. Et c'est formidable. D'ailleurs, il y en a un en cours qu'on jouera bientôt à Louviers, qu'on a déjà donné à Paris une fois, sur Claude Monet, parce que Jacques est un fou de Claude Monet. Et Claude Monet, à son époque, a été... pas du tout aimé par plein de gens qui étaient très conservateurs, mais beaucoup, beaucoup aimé par des tas d'écrivains qui lui ont consacré beaucoup, beaucoup de textes. Donc ce spectacle qui s'appelle Monet, Jazz et Lumière, côté jardin, il va consister à projeter des magnifiques images de ses tableaux, de ses toiles, sur un rideau de tulle. Nous sommes deux comédiens à lire et derrière le rideau de tulle, nous avons un super jazzman qui est un grand pianiste de jazz qui s'appelle Hervé Sélin et qui va jouer, qui fait des improvisations sur des thèmes de Debussy qui était contemporain de Monet. Et à chaque fois qu'il jouera, il y a par un effet de lumière, on le verra à travers l'œuvre de Monet projetée à ce moment-là. Donc on va refaire ce spectacle-là à Louviers, puisque la Normandie fait tous les ans un grand festival sur les impressionnistes. Voilà, donc ça c'est sympa, et donc beaucoup, beaucoup de spectacles comme ça ont été vraiment pointus, élaborés, très beaux, et on a fait ça pendant 20 ans, quoi. Et là, je suis en train de ralentir pour presque terminé parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, que j'ai trois petits-enfants et que je m'en occupe de plus en plus et que je ne peux pas tout faire.
Extrêmement envie d'y aller, en tout cas, c'est sûr. Et alors, quand je t'écoute, avec grande attention, c'est passionnant, je vois que tu es justement passionné par la littérature, par l'art, enfin par tout ce que tu me racontes. Est-ce que tu aurais un ouvrage ou un artiste, peu importe, qui t'a marqué, que tu aimerais recommander? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient en tête, ou une œuvre ou un livre que tu as lu? Enfin, je sais pas.
Oh là là, oui, alors il y en a beaucoup. J'ai fait des lectures, par exemple. Alors c'est j'ai des coups de cœur qui sont radicalement différents. Hein. C'est Jean-Louis Fournier. Par exemple, j'ai fait des lectures avec lui, je lui ai demandé de venir et tout, et ça c'est vraiment quelqu'un de très sympa. Il avait travaillé avec Pierre Desproges. Alors tout ça, c'est vrai que ça c'est ma génération, parce que c'était des gens que j'ai connus quand j'étais jeune à la télévision. Mais enfin, il y a des gens qui vont écouter le podcast qui vont certainement se souvenir de Pierre Desproges.
Bien sûr.
Voilà. Et donc, Jean-Louis Fournier, il a beaucoup travaillé avec lui et j'aime beaucoup son humour. Et il a écrit plein de livres vraiment super. Alors, il y en a un autre que j'adore aussi. C'est une littérature qui est quelquefois difficile. Quelquefois, je sautais des pages parce que je ne voulais pas les lire. Et hélas, il nous a quittés bêtement avec une bactérie à la noix, c'est Jean Tellet, qui a écrit des bouquins formidables sur Villon, plein d'auteurs, sur des faits divers du passé. C'est extraordinaire. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet homme-là. Et alors, il y a une auteure que j'aime, mais c'est quasiment devenu une amie. C'est une très, 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 très grande écrivaine, autrice, auteur. Tu choisiras le mot que tu veux. On ne sait plus maintenant, tu sais quoi dire. C'est Sylvie Germain, qui est vraiment extraordinaire, qui a écrit des dizaines de romans très, très inspirés, qui sont à la fois très profond et une écriture si belle. C'est facile de savoir si quelqu'un a une écriture belle quand on lit à voix haute. Ceux qui n'ont pas une belle écriture, ça passe pas. C'est vrai, hein ? Et la lecture à voix haute sublime une belle écriture. Et tu peux pas lire un texte qui est mal écrit.
Mais écoute, merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Je reviens un petit peu juste sur la SNCF. J'ai vu, donc il y avait plus de 3000 gares en France, et qu'il y aurait plus d'un milliard d'annonces entendues avec ta voix partout en France. Ça ne m'étonne pas si on fait le calcul, assez rapide. Et quand j'ai posé la question sur mes réseaux sociaux en parlant de toi, est-ce que vous avez des questions à poser à Simone ? On m'a demandé plusieurs fois, mais qu'est-ce que ça lui fait de s'entendre quand tu prends le train ? Qu'est-ce que ça te fait de t'entendre quand tu prends le train ?
C'est une sensation absolument incroyable. Ça me fait rire, sourire et être particulièrement fière. Mais c'est très marrant parce que les gens m'écoutent, ils sont à côté de moi, ils ne savent pas que c'est moi, c'est drôle. Non, j'aime bien. Quelquefois, j'essaye de dire l'annonce en même temps que moi. Alors, sur des choses...
Cette phrase est très drôle, de dire l'annonce en même temps que moi, c'est rigolo.
Mais sur des choses aussi simples que « prenez garde à la fermeture des portes, attention au départ », ça, j'arrive à le dire en même temps que moi. Mais quand il y a une liste de gares à desservir, ça, non, j'y arrive pas parce que je ne connais vraiment pas les dessertes de tous les trains. Non. Je ne suis pas Superwoman.
Bah attends, mais ça m'amène à la prochaine question. Est-ce que tu es incollable en géographie puisque ça, tu as enregistré toutes les villes?
Non, je ne suis pas incollable en géographie. Non. Je sais en gros où se situent les villes dont je donne le nom. Mais non, parce que pour la plupart, je les ai enregistrées une fois. Dans plusieurs intonations, certes. Mais qu'une fois.
Il y en a tellement.
Il y en a pas mal.
J'avais une autre question. Tu disais que tu étais donc comédienne, donc tu n'es pas cheminote.
Non.
Voyages-tu gratuitement? C'est ce qu'on m'a demandé.
Oui, je sais, ça interpelle beaucoup de personnes. Non, je ne voyage pas gratuitement. Je paye mon train et je vais t'expliquer pourquoi. Les cheminots ont ce qu'on appelle dans le jargon aussi des facilités de circulation. Ces facilités de circulation font partie intégrante de leur salaire. Il n'y a pas de raison que j'aie, moi, ces facilités de circulation puisque je ne suis pas cheminote. Bon, maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a, on me le dit sans arrêt, des personnes qui bénéficient de ces facilités de circulation qui normalement, sont moins en vue que moi par rapport à la SNCF. Alors, si un jour on me donne les facilités de circulation, je ne les refuserai pas. Mais je comprends parfaitement pourquoi. Et parce que les salaires des cheminots ne sont pas extraordinaires. Et ça, c'est bien qu'ils aient ça en plus. Voilà.
Et pareil, je t'écoutais parler, j'ai écouté quand tu disais les annonces, quand tu refaisais ta propre annonce. Est-ce qu'on te reconnaît? Est-ce qu'on te reconnaît quand tu parles à des gens autour de toi? Alors, je sais qu'on t'a aussi beaucoup posé cette question, mais je trouve ça intéressant. Est-ce que quand tu vas chez le boulanger, est-ce qu'il va te dire avec plaisir et qu'il te reconnaît ou pas?
Alors, ça, c'est... On me pose souvent cette question et je réponds la même chose. À savoir que lorsque je vais chez le boulanger, je ne vais pas dire « Madame, votre attention, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une baguette pas trop cuite? Merci beaucoup et bon voyage. » Non, ça c'est sûr que je ne vais pas lui dire ça. Je vais simplement lui dire « Je voudrais une baguette, s'il vous plaît, madame. » Donc non, on ne me reconnaît pas à la voix. En revanche, comme il y a eu pas mal de reportages vidéo, notamment sur Combini. Je ne savais même pas ce que c'était quand j'ai fait l'interview. Donc ça a été vu à des milliers et des milliers, même peut-être plus millions, je ne sais pas.
Oui, millions. Voilà,
millions, d'accord. Donc il y a des gens qui me reconnaissent maintenant dans la rue. Et ce qui est amusant, c'est que c'est un média qui touche peut-être plus les jeunes, hein. Et je suis arrêtée quelquefois, l'autre jour, de deux jeunes filles dans le métro qui m'ont reconnue.
Et ça fait quoi alors d'être reconnue?
C'est amusant, mais moi, ma position est absolument géniale parce que je ne suis pas hyper connue comme les gens de la télévision ou les... Juste un tout petit peu pour faire plaisir, quoi. Donc, oui, c'est mignon. La dernière fois, c'était quand? Ah oui, je prends un taxi et on arrive à la fin du trajet et il se retourne vers moi et il me dit « Est-ce que vous travaillez à la SNCF demain ?» Je lui dis « Oh, c'est pas vrai ». Il m'avait reconnu, lui m'a dit que c'était à la voix. Parce que c'est vrai que c'était le soir et tout, bon. Donc c'est amusant. Mais sinon, oui, il y a des gens qui me reconnaît. Ça n'arrive pas tous les jours non plus, hein. Mais voilà, c'est parfait pour moi, cette petite notoriété est très agréable, puisqu'elle me donne l'occasion, par exemple, de te rencontrer et d'être...
De ne pas subir, d'être quoi.
De ne pas subir un harcèlement qui est sympathique aussi, mais qui n'est pas très confortable à vivre.
Oui, c'est ça. On va passer après sur d'autres petites questions. Juste une dernière sur ton rythme professionnel. Aujourd'hui, tu enregistres à quelle fréquence ?
Alors aujourd'hui, j'enregistre à peu près une fois par mois, quelques fois deux, et dans les grandes occasions, trois. Mais c'est pas, voilà, non, c'est loin d'être tous les jours, hein, c'est de temps en temps. En revanche, je fais de plus en plus d'opérations de communication pour la SNCF, que ce soit des opérations internes ou externes, ça m'arrive aussi. Pour la communication interne, il faut dire qu'à la SNCF, les cheminots, ils me connaissent tous.
C'est ce que j'allais te demander, comment, est-ce qu'ils te connaissent ou pas ?
Oui, alors ils me connaissent tous parce qu'ils savent qui est Simone, puisque Simone, c'est la voix de la SNCF. Et donc, je suis leur voix. Ils sont absolument merveilleux avec moi. Je suis leur voix, quoi. Leur maman, leur grand-mère, leur sœur. Et ça, c'est vraiment très... C'est vraiment très sympa. Dans les trains, à peu près, on va dire à 85%, dans 85% des cas, ils me reconnaissent. Mais je me présente toujours à eux avant parce que je ne voudrais pas qu'ils s'imaginent que... Voilà, je leur dis toujours bonjour, je suis Simone et tout. Ah, mais oui, on vous avait reconnu et tout, voilà. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est très agréable. C'est mes cheminots et donc, je vais souvent les voir. L'autre jour, j'ai été demandée pour co-animer avec un journaliste dont c'est vraiment le métier qui fait ça très très bien. J'ai pour co-animer une séance, alors ça se passait en visio pour les jeunes embauchés, pour accueillir les jeunes embauchés de l'entreprise. On recrute à tour de bras et on leur présentait un petit peu tout le groupe SNCF, puisque maintenant c'est une holding, et puis il y a des SA, hein, des sociétés qui dépendent de cette holding. Donc on présentait tous les avantages du groupe et tout, et on leur parlait et on leur racontait tout. Il y avait Farandou, le PDG, il y avait tous les grands de la SNCF qui racontaient ça aux jeunes embauchés. Donc c'est dans des occasions comme ça qu'on me demande de venir et c'est très très plaisant aussi. Bientôt je vais aller à Strasbourg. Alors là c'est un peu différent. Oui, je vais inaugurer un COEG. Alors c'est un centre opérationnel d'exploitation en gare. C'est-à-dire c'est là où il y a toutes les commandes, où on voit tous les trains qui arrivent et tout,
okay, ouais.
Et qui sont en relation et tout. Et c'est là qu'ils diffusent ma voix ou éventuellement qu'ils prennent le micro s'il y a un truc urgent qui n'est pas dans les fichiers,
encore,
qui n'est pas enregistré. Et donc ça, je vais inaugurer parce qu'il est tout nouveau, tout beau. Donc je vais à Strasbourg dans quelques jours. Et c'est extra, quoi. J'ai participé aux 40 ans du TGV. J'ai participé aux 80 ans de la SNCF. Voilà, je fais des tas de choses en plus maintenant des simples enregistrements.
Oui, tu es emblématique à la SNCF.
En quelque sorte. Faut garder la tête froide. Hein. Non, c'est vrai.
Ils mettent en avant justement.
Et ce qui est exceptionnel, quand même, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de gens, à part les grands acteurs, femmes ou hommes, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui, à mon âge, ont encore cette reconnaissance, cette gentillesse pour moi. Enfin, c'est fabuleux.
Mais c'est mérité.
C'est pas moi qui vais le dire, sans doute, mais bon.
Alors une question par rapport à mon milieu, aux réseaux sociaux.
Oui.
Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux ? Ça c'est une première question. Et dans tous les cas, qu'en penses-tu des réseaux sociaux ?
Alors écoute, je ne suis pas sur les réseaux. Alors, c'est pas vrai. Il y a fort longtemps, j'ai un ami un jeune ami qui te ressemble un peu d'ailleurs dans la vivacité, l'intelligence et tout ça, qui est ingénieur, qui est rentré à la SNCF. Et il s'est rendu compte que sur les réseaux sociaux, il y avait un Facebook avec Simone Hérault. Alors que moi, je n'avais jamais fait et tout, donc c'était un truc faux.
C'est possible, oui, ok.
Voilà, donc il a fait des pieds et des mains, il a réussi à enlever celui-là, mais il fallait en créer un vrai.
Oui, pour prendre sa place, c'est pas voilà. Oui, oui.
Donc là, maintenant, plus personne n'a le droit de... Alors, moi, je ne m'en occupe... Enfin, j'ai repris en main le Messenger.
Oui.
C'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent me laisser des messages,
tu peux discuter moi avec eux.
Voilà, je ne m'occupe que des messages. Je fais rien du tout sur okay. Là. Le seul réseau sur lequel je suis, c'est LinkedIn.
Oui, effectivement. Ou là où je t'ai contacté d'ailleurs.
Ah bah voilà. Et j'ai du mal à tout suivre parce qu'il y a tellement de trucs de il y a tellement de gens qui veulent devenir comme pas amis comment on dit
rejoindre
oui on voudrait rejoindre mon réseau,
ton réseau,
c'est le mot réseau hein. Et alors je dis oui et j'en ai plusieurs centaines mais je sais pas quoi en faire, c'est super gentil, j'ose pas dire non, alors de toute façon si ça me permet de dire j'aime quand je trouve des trucs intéressants,
ouais.
Mais j'ai du mal à tout voir. Alors, je me dis, bon, déjà, ça, j'en ai un et j'ai du mal à tout voir. Alors, non, je ne suis pas sur les autres, ce serait infernal. Non, c'est... Oh, non, c'est... Ça aussi, c'est un peu générationnel. J'ai l'impression que je n'ai pas le temps, quoi. J'ai pas une vie hyper trépidante non plus. Bon, je fais pas mal de choses, mais je sais pas comment on peut prendre autant de temps pour regarder. Voilà, ça, non, et c'est pas maintenant que je le ferai, quoi.
C'est sûr que c'est une histoire de.
Vrai, je m'en trouve très bien.
Oui, c'est une histoire de priorisation. C'est vrai que du coup, oui. Ça, si on regarde beaucoup les réseaux, bah, on fait pas d'autres choses à côté. C'est...
Bien sûr.
Et dans la même lignée, il y a quelque chose dont on entend beaucoup parler actuellement, c'est l'intelligence artificielle.
Oh ah bah.
Quelle histoire. Tu as peut-être vu passer la chanteuse Angèle qui a chanté des musiques grâce à l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas sa vraie voix. C'est une voix qui a été refaite, mais qui marche très bien. Qu'en penses-tu de tout ça ? Parce que est-ce que ça menace ou pas les métiers justement qui utilisent leur voix ? Je veux bien ton avis, je trouve ça intéressant.
Alors, je suis très impliquée dans ce sujet, ce problème de l'IA, parce que je fais partie d'une association professionnelle qui s'appelle lesvoix.fr, qui regroupe absolument tous les professionnels de la voix. Enregistrés, qui sont tous des comédiens par ailleurs, qui vont aussi qui font aussi des représentations, enfin qui donnent aussi des représentations théâtrales et tout. Et les gens de cette association se battent depuis c'est relativement récent que c'est sorti ce truc-là.
C'est récent, bien sûr. Oui.
Bon, et donc ils se battent comme des fous. Ils ont réussi à monter un truc mondial avec l'UVA, qui est l'Union des Voices Artists aux États-Unis. Et ils ont fait pression. Et c'est un peu grâce à tous ces gens-là que des mesures sont en train d'être prises au niveau européen. Mais malheureusement, y a le mal est déjà fait. Enfin. Il faut maintenant encadrer de manière à ce qu'on ne continue pas à nous voler nos data, c'est ça ?
Vos voix.
Nos voix, tout simplement. Et quand on sait qu'il leur suffit de 3 secondes d'intonation pour refaire une voix, c'est dramatique. Et c'est l'intelligence, l'IA générative là, qui aspire tout et qui se fout royalement de savoir s'il faut payer des droits aux artistes. Oui, c'est un gros danger. Vivement que tout ça soit mis en place pour des règlements efficaces. Bon, maintenant, comment on va faire pour contrôler tout ça ? Parce que quand on dit...
C'est une grande question.
Quand on dit, oui, il suffit de mettre généré par IA sur des images, mais... enfin bon, est-ce que les gens vont se sentir obligés de mettre généré par IA ? Voilà, c'est dur. Alors nous, on préfère à l'IA, on préfère l'intelligence artistique. Hein, c'est un peu le mot d'ordre de la compagnie, de l'association Les Voix. Et on essaye de se protéger en faisant mettre sur tous les contrats des comédiens un petit paragraphe qui dit attention, nous n'autorisons pas. La pratique qui consiste à prendre des extraits de cet enregistrement, etc. Enfin, il y a tout un paragraphe qu'on essaye de faire appliquer sur nos contrats. Alors, ça va. L'IA, c'est évidemment que c'est génial pour plein de domaines. Pour le domaine médical, c'est toujours celui auquel on pense en premier. Et si ça permet de faire des gros progrès dans ce domaine-là, c'est génial. Mais dans tout ce qui est artistique, mais c'est dramatique. C'est dramatique.
Écoute, merci beaucoup parce que c'est hyper intéressant. C'est aussi une question qui avait été posée parce que ça va tellement vite, ça peut faire peur comme chaque révolution. Et voilà, il faut essayer de composer avec puisqu'en fait, on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix. Et en plus, moi, j'ai une voix de... Alors, c'est pas une voix... J'ai une voix de synthèse, moi, qui est faite aussi pour moi. Pour la SNCF, ouais. Qui est une voix qui est fabriquée à partir de mes phonèmes. Donc, l'intelligence artificielle fait aussi ce genre de choses. La mienne, elle est hyper protégée. Et évidemment, personne n'a le droit de prendre quoi que ce soit de ma voix. Parce qu'il suffit qu'on prenne 3 secondes de ma voix dans une annonce pour que je me retrouve à parler anglais au fin fond des États-Unis et... Personne ne le saura jamais, quoi. Donc, a priori, ma voix, elle est vraiment bien protégée. Enfin, bon.
Nous verrons, mais en tout cas, c'est très intéressant d'avoir ton avis. Je trouve ça très intéressant. En plus, tu as abordé ce que je voulais aborder avec les phonèmes, etc. Et juste une question par rapport à ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la SNCF peut, grâce à des logiciels, sur certaines phrases, la reconstruire si tu n'es pas disponible ? Enfin, dans quel cas c'est utilisé ?
Exactement, c'est pour ça ou pour pour de la téléphonie. Par exemple, pour des messages par téléphone, ou effectivement, si je ne peux pas être là, s'il y a un truc urgent à faire. Je me souviens qu'une fois, ça a été utilisé il y a quelques années, quand il fallait trouver les Pokémon là.
Oui, avec Pokémon Go, ouais.
Ouais, Pokémon. Et les fous furieux de ça, n'hésitez pas à descendre sur les voies quand ils voyaient un Pokémon les voies. Enfin bon. Et donc là, on m'avait fait faire avec ma voix de synthèse des annonces pour dire bon, ça suffit maintenant.
C'est dangereux. Ouais. On a bientôt fini cet épisode. Une question. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter qui aurait potentiellement marqué ta carrière ? J'ai vu d'ailleurs, je me permets, parce que j'ai regardé pas mal d'interviews de ta part, que tu étais toujours d'ailleurs touché quand on te demandait d'enregistrer un morceau de voix, une phrase pour des gens qui se sont rencontrés dans un train, par exemple. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu aimerais nous raconter ?
Alors oui, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. J'en fais pour les cheminots, hein. Des parents en retraite, des mariages, C'est pas compliqué à faire pour moi. Je fais des petites annonces personnalisées et je leur enregistre et je leur envoie. Ils sont contents. Je veux dire, c'est au-delà de ce que je peux imaginer. Ça, c'est super. Alors, des anecdotes par rapport à ça. Si, il y a quelque chose qui me touche énormément, le monde des autistes ou des enfants qui ont eu un problème cérébral et qui sont atteints un petit peu d'autisme, enfin c'est des termes médicaux très compliqués, un spectre autistique, etc., etc., et d'autres autistes. J'en ai 3 comme ça, qui sont généralement des fans de train, mais des fans absolus de train. Et j'en ai un qui est autiste profond, qu'on appelle non-verbal, c'est-à-dire que lui, il ne parle pas du tout. Et sa maman a réussi à me contacter, donc c'est pas très compliqué de me trouver. Et j'ai enregistré. Et quand sa maman imitait ma voix, il souriait. Donc elle s'est dit, on va demander à Simone de faire les vraies annonces. Et donc je lui dis, Ilan, tu dois maintenant rentrer dans ta chambre. c'est le moment d'aller faire dodo. Enfin, je lui ai fait des tas d'annonces. C'est un jeune homme. Et j'ai fait des annonces avec tous les noms. Ils ont beaucoup d'animaux, avec tous les noms de ces animaux. Parce que c'est des choses qu'il... Et voilà. Et j'ai hâte de savoir. D'ailleurs, il a eu ça pour Noël et je n'ai pas eu de retour là. Voilà, ça m'a fait très plaisir. Il y en avait un autre que je suis allée rencontrer, lui. Je n'ai pas fait de message. Je l'ai rencontré parce que lui, il était un fou furieux des numéros de train. Donc, il habitait pas très loin d'un endroit où passaient les trains, en banlieue, en région parisienne. Et il a des cahiers entiers avec tous les numéros de train qui rentrent, qui sortent, qui vont au dépôt, etc. Et donc, de me rencontrer, il était tout content. Voilà. Et puis, j'en ai encore un autre petit aussi, comme ça. Voilà, alors tout ça, c'est vraiment très, très, très émouvant. Et si ma voix leur fait du bien, je suis tellement contente. Tellement contente. Il y en a deux que j'ai rencontrés. Le troisième, là, le Ilan, j'irai le rencontrer un jour aussi. Parce que c'est trop beau tout ça. C'est trop beau. Alors quand il y a des histoires d'amour en plus, c'est le paradis.
Bah, écoute Simone, merci beaucoup. C'était, comme je l'avais déjà dit, passionnant. Et je confirme, tu as une voix rassurante, apaisante. C'est très intéressant. Bon, après,
tu sais
je
qu'au
ça...
au tout début, quand je commençais à enregistrer, donc j'étais encore toute jeune, hein, j'avais 30 ans. Le fait que ma voix n'ait pas changé, c'est parce que quand j'ai commencé, elle était déjà stabilisée, ma voix, j'avais déjà 30 ans. Quoi.
C'est vrai.
À cette époque-là, il y avait l'ingé son avec qui j'enregistrais, qui avait décrété que ma voix était érotico-sécurisante.
Ah bah dis donc.
Voilà, donc alors maintenant, elle est sécurisante.
Ouais, c'est... Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu la chance de, comme je le disais en intro, des centaines de fois le train, j'ai eu la chance de t'entendre. Et là, de te rencontrer et de discuter avec toi, je trouve ça super intéressant. Donc déjà, merci beaucoup pour ton temps, écoute, pour tes réponses. Quel parcours, franchement, moi, je suis impressionné. Et ce que je te propose pour finir cet épisode, c'est que tu aies le mot de la fin.
Madame, monsieur, chers amis, je vous souhaite une très agréable journée ou soirée ou matinée à l'écoute de Jonathan. Et je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024, on peut encore. Et merci de votre attention.
Simone, merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à No Jetlag, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou encore SoundCloud. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao !